Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour.
Dans cette chronique des temps modernes, je vais vous parler cette semaine du 1er mai pour deux raisons. La première, c'est que c'est donc un jour. La deuxième, c'est qu'il y a eu une bataille intense avec une tentative de suppression du 1er mai tel qu'on connaît, jour férié et chômé, je vais y revenir. Et cette bataille vient d'être gagnée puisque c'est ce lundi de cette semaine que la CGT et les organisations syndicales ont enfin obtenu, après une bataille, que le gouvernement ne passe pas en force sur son projet de loi du 1er mai et ne convoque pas par conséquent la commission mixte paritaire qui réunit les députés et les sénateurs pour adopter finalement cette suppression du 1er mai telle qu'on le connaît aujourd'hui. Je vais y revenir. Donc c'est une victoire qui est forcément liée à la mobilisation. Donc le 1er mai restera un jour férié, chômé, obligatoirement chômé, et il y avait déjà des dérogations, donc il n'y avait pas besoin d'en avoir davantage. Évidemment, ces dérogations pour des secteurs essentiels vont continuer d'exister. Alors c'était une proposition de loi de Gabriel Attal, j'insiste là-dessus, parce que ce petit gars a l'intention d'être notre futur président de la République si on vote pour lui. Donc il faudra se rappeler que Gabriel Attal, candidat à la présidence de la République, est pour nous supprimer nos droits. Alors, il n'y avait pas que lui, mais c'est quand même lui le créateur de cette tentative de suppression du 1er mai tel qu'il existe aujourd'hui, puisqu'il a été soutenu par la droite et par l'extrême droite, par contre dénoncé par l'ensemble des syndicats, en rappelant que ça se reposait sur un tissu de mensonges, puisqu'en fin de compte, dans la réalité, cette suppression du 1er mai chômé et payé pour tous aurait favorisé les grands groupes aux dépens du petit commerce indépendant tel qu'il l'avait expliqué, de proximité, et des artisans qui, je le rappelle, peuvent déjà ouvrir le 1er mai. Cette proposition de loi ne serait évidemment pas limitée aux boulangeries et aux fleuristes, mais aurait concerné tout le secteur du commerce, bien au-delà donc des boulangers et des fleuristes, et également le secteur de la culture et de l'agroalimentaire. Donc on met le doigt dedans et on y retrouve presque tout le monde. On nous a fait déjà le cas de figure pour le dimanche, il faut s'en rappeler, hein, avec une multitude de dérogations aujourd'hui. Ce projet de loi ne prévoyait pas, comme ça avait été annoncé, de doubler les salaires ce 1er mai, hein, des journées travaillées à 200%, ça a été le baratin, mais on ne l'a pas retrouvé dans le projet de loi. Et ça n'aurait pas garanti non plus le fait d'être volontaire, parce que volontaire face au pouvoir de l'employeur, tous ceux qui ont travaillé dans une entreprise savent ce que signifie le volontariat, et je dirais encore plus si on est salarié précaire. Donc être volontaire dans une entreprise, la plupart du temps, c'est du pipeau. Alors que les macronistes voulaient faire du 1er mai une journée à fort potentiel commercial, ils l'avaient présenté comme ça, il faut rappeler que Gabriel Attal est macroniste, le rapport de force finalement a fait que ça a payé pour le monde du travail. La CGT a d'ailleurs remercié les dizaines de milliers de personnes qui se sont mobilisées pour interpeller les députés et signer la pétition sur le sujet ou manifester. Il faut redire qu'ils nous ont déjà volé 2 ans de vie avec la réforme des retraites, donc cette victoire ne fait pas de mal pour le moral, c'est une bonne nouvelle. Et je reviens donc à ce 1er mai 2026, par conséquent, Il y a de nombreux motifs à se rassembler et à manifester. Pas seulement le 1er mai, évidemment, mais cette journée internationale de lutte du monde du travail est faite pour ça. Alors que l'on soit ouvrier, que l'on soit retraité, jeune ou privé d'emploi, on subit tous la même violence. D'abord, on pense bien sûr, puisque c'est une journée aussi pour la paix, le 1er mai, ça l'a toujours été, exiger la paix immédiate. Plusieurs raisons, évidemment, notamment le risque d'aller vers une troisième guerre mondiale. Hein, on nous aurait dit ça il y a quelques mois, on nous aurait dit c'est de la science-fiction, mais on a bien vu que c'était de moins en moins de la science-fiction. Rappelez aussi que ce sont toujours les travailleurs qui sont victimes des guerres. Ce ne sont pas ceux qui les décident. Rappelez aussi que dans une économie de guerre, et on essaye de nous placer déjà dans une économie de guerre, qu'est-ce qui se passe ? Il y a moins d'argent pour les salaires, pour les services publics, pour le progrès social, et plus d'argent pour l'armement et la destruction. C'est exactement le cas de figure, le schéma qui est déjà enclenché en France, donc il faut le redire aussi. Alors il y a bien sûr d'autres raisons, mais déjà celles-ci, il faut les prendre en compte. En matière de motivation à se mobiliser pour le 1er mai, il y a aussi la question des salaires, et je pense en particulier à l'échelle mobile des salaires. C'est une justice, ce serait une justice élémentaire. Alors l'échelle mobile des salaires, ça a existé en France, c'est pas une invention. Cela signifie que les salaires suivent automatiquement l'inflation. Ce système a existé en France jusqu'aux années 70, donc c'est pas une chimère. Et il existe dans d'autres pays aujourd'hui encore, de mémoire, je crois que la Belgique l'utilise encore aujourd'hui. Quand les prix montent, eh bien les salaires, les pensions, les allocations doivent augmenter automatiquement. Donc ça, c'est déjà un moyen, une raison, pardon, de se mobiliser. Alors il y en a d'autres hein, sur les salaires, notamment une autre répartition des richesses, puisque vous savez que les salaires par rapport à la répartition des profits sont finalement de plus en plus le parent pauvre. Un autre aspect que je voulais développer aujourd'hui, c'est exiger la nationalisation de l'énergie. Et là encore, ce n'est pas de la science-fiction. Ça existe dans certains pays. On va y retrouver le Venezuela, tiens donc. On va y retrouver l'Iran, tiens donc. Alors l'Iran, c'est évidemment pas dirigé par des gens sympathiques, mais néanmoins, le pétrole est nationalisé, comme au Venezuela, donc chercher l'erreur quelque part. Alors, cette nationalisation de l'énergie, pour la France, elle a existé pour éviter d'être dans les mains des multinationales de l'énergie et dans les pattes de la spéculation. Alors l'électricité avec EDF, donc cette création en 1946, qui était faite pour que ce soit la politique de l'État, enfin le pouvoir en place qui joue véritablement son rôle dans la maîtrise de l'énergie électrique, celle-là, plutôt que se comporter comme c'est de plus en plus le cas avec une entreprise qui s'appelle toujours EDF, se comporter comme une entreprise privée, puisqu'en fin de compte ce sont des attaques sans cesse pour aller dans le sens de la dénationalisation. Alors je parle d'EDF, je parle aussi de Gaz de France qui lui a été purement et simplement privatisé en 2007. C'est intéressant de le redire quand on nous fait du baratin sur le problème de l'indépendance et le problème des importations de gaz. Donc GDF n'est plus une entreprise nationalisée depuis à peu près 20 ans, 19 ans exactement. Et en ce qui concerne le pétrole, eh bien la création de Total, qui était une émergence de la compagnie française des pétroles après la Seconde Guerre mondiale, et la création de Elf dans les années 60, c'était tout simplement la volonté que la France maîtrise ces questions de gestion, enfin d'importation et de raffinage de pétrole pour l'indépendance énergétique de la France. Alors depuis, Elf a été liquidé en étant absorbé par Total, et à Total, alors qu'il y avait dans les capitaux une majorité de capitaux qui pouvaient faire blocage et donc décider dans le bon sens de la gestion de l'entreprise, il n'y a plus aujourd'hui que 1% des actions qui sont le fait de l'État, enfin la propriété de l'État, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire avec 1%, évidemment. Donc retrouver la main sur la politique énergétique, que ce soit dans le pétrole, dans le gaz ou dans l'électricité, j'étais un peu rapide, mais j'en avais déjà parlé, c'est évidemment une préoccupation de la période qui nous permettrait aussi de discuter des prix à la pompe plutôt qu'aujourd'hui engraisser les multinationales du pétrole en argumentant de la guerre, mais ça les sert bien quand même. Alors j'ai cité quelques motifs à mobilisation, évidemment la liste est incomplète. Il y aurait aussi à parler de l'emploi, de la précarité, du partage des richesses, de la couverture sociale, des libertés, etc. Mais bon, je ne veux pas vous assommer avec les motifs à se mobiliser, les motifs de mécontentement, vous avez déjà votre liste dans la tête. La CGT appelle donc, avec d'autres organisations syndicales, les travailleuses et les travailleurs à manifester massivement dans toutes les villes de France ce 1er mai. C'est notre journée à nous, si on peut le dire. C'est le jour où on se doit se faire entendre, pas seulement celui-là, mais c'est un temps fort pour le faire, pour exiger que toutes nos revendications soient satisfaites. Ce jour ne date pas d'hier, puisqu'il a aujourd'hui 140 ans depuis sa création. Donc tous les travailleurs du monde se mobilisent d'une façon ou d'une autre pour leurs revendications ce jour-là. C'est aussi la particularité de ce 1er mai, c'est que ça se mobilise parfois sous une répression sanglante dans tous les pays du monde. Et pour ceux qui sont dans le département du Tarn-et-Garonne, il y a un rassemblement à Montauban à 10h30 devant la maison du peuple. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine en vous disant à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Quai Luce.
Le public de jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour. Oh.